Elle s'appelle Christine et elle m'a écrit ceci. Elle dit « Mon histoire ressemble à celle de Cendrillon, avec les souris et le carrosse en moins, mais avec l'affreuse belle-mère et le père absent qui fait le choix de sacrifier sa fille au profit de celle qui la maltraite. » Christine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord de participer, c'est très apprécié.
Merci à vous.
Raconte-nous comment ton histoire commence. D'abord, tu es née en République dominicaine. Hein?
Oui.
Et à un moment donné, tu t'en viens au Québec. Raconte les circonstances de ton arrivée au Québec.
Donc, je suis arrivée ici pour la première fois en 2011. Et au début, ça allait avec ma belle-mère. J'étais contente, j'étais au Canada. J'étais un peu triste parce que j'avais laissé toute ma famille en République. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, ça commençait à devenir de plus en plus difficile avec elle.
Avec la belle-mère, avec la belle-mère. Oui. Parce que vous quittez la République, vos parents se séparent, vous quittez la République avec votre père, vous vous installez au Québec, et lui, il se fait une nouvelle conjointe, en fait, au début, ça va bien, mais après un certain temps, ça ne va pas bien. Là, vous avez quoi? Vous avez 10-11 ans à peu près, hein, c'est ça?
Oui, 11 ans.
Et quoi? Elle a commencé à vous maltraiter? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais en fait, mon père était déjà ici. Quand j'avais 3 ans, il était déjà ici, donc je suis rendue quand il y avait... J'avais 11 ans. Donc, ça a commencé avec des petites choses, comme juste me regarder des travers, ou au point où c'était rendu, où elle me disait « tu vas finir dans la rue, les gens vont s'utiliser, puis après ça, ils vont te jeter. » C'est des choses qui m'ont choqué.
Mais que tu ne dis pas à un enfant de 11 ans, là, c'est ça. Là.
Oui.
Est-ce qu'elle vous a frappé? Est-ce qu'elle vous a frappé? Est-ce qu'elle a été...
Oui, c'était rendu à ce point-là, à un moment donné. Et un jour, j'étais allée chez son frère et ils m'ont dit « Oh, wow, tu commences à bien articuler en français. » J'ai dit « Oh, merci. » C'est parce que ma belle-mère m'a donné une astuce, c'était de mettre un crayon dans ma bouche puis d'essayer d'articuler le mieux que je pouvais.
Oui.
Donc, je leur ai dit ça. Puis, en arrivant, j'ai remarqué qu'elle était fâchée. Donc, je suis allée au salon pour lui demander pourquoi elle était fâchée. Et elle m'a giflée. Elle m'a dit « Pourquoi tu as dit ça à mon frère? Ils ont cru que j'étais maltraitée. »
Après t'avoir giflé, oui, c'est ça.
Oui. Puis par la suite, j'en pouvais juste plus. Donc, j'ai pris tous les cachets qu'il y avait dans la pharmacie, dans la maison. Puis par la suite, j'ai essayé de me suicider.
Oh! Tu as fait une tentative de suicide?
Oui.
Quel âge tu avais à ce moment-là?
11 ans. Mon père, lui, il était pratiquement pas là. Il voyait rien. Et même lorsque ma belle-mère m'insultait devant lui, il ne faisait rien.
Et donc, éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as quitté le domicile, c'est ça? La maison où vivaient ton père et ta belle-mère,
oui.
Tu as quitté, c'est ça?
J'ai quitté, puis je suis allée en République encore une fois. J'avais 11 ans à ce moment-là encore. Je suis revenue en 2014 avec 14 ans. J'arrive un vendredi soir, et bien le dimanche, ma belle-mère décide de déménager.
OK, elle quitte ton père.
Oui.
OK, donc toi, tu te dis, ah ben la belle-mère est partie, je vais retourner vivre avec mon père, c'est ça?
Oui. À ce moment-là, au début, encore une fois, ça allait bien. Mais ensuite, ça commençait à se dégrader au point où mon père venait puis il faisait juste l'épicerie. Il faisait l'épicerie, il cuisinait puis il partait.
Je ne le voyais pratiquement plus. Tu vivais toute seule dans les fêtes, dans l'appartement.
Oui. C'était quand même une grande maison. Donc, j'étais toute seule. Puis, à un moment donné, on était rendu le 31 décembre. Là, je me suis dit, ben, étant donné qu'il n'est pas là, il est sorti fêter avec sa famille, eh bien, je vais au moins l'attendre devant sa porte. Eh bien, à un moment donné, je me suis juste endormie. Puis le matin, quand je me réveille, je me suis rendu compte que mon père m'a enjambée pour rentrer dans sa chambre. C'était dur de voir ça.
Là, t'as quoi? T'as 14-15 ans, là?
Oui.
T'es vraiment toute seule. Il est en train de t'abandonner progressivement. Il prend même pas la peine de te réveiller pour te souhaiter une bonne année. Il passe par-dessus toi, il s'en va se coucher. Et à un moment donné, tu te retrouves bel et bien toute seule. Là. Tu te retrouves seule dans la vie. Ton père va t'abandonner. Là.
Oui, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que je vais en République dominicaine pour fêter mes 15 ans. Je reste un mois. Quand je reviens, mon père ne vient pas me chercher à l'aéroport. Je passe presque 5 heures à l'aéroport. Par la suite, c'est la police qui vient me chercher. Puis ensuite, c'est la DPJ.
Et la DPJ t'a trouvé une famille, c'est ça? Ils t'ont trouvé une famille d'accueil?
Oui.
Et comment ça s'est passé dans ta famille d'accueil?
Oh, ça s'est très bien passé. Je leur parle encore, puis sérieusement, je les remercie toujours.
Ah oui, c'est vrai?
Oui.
Cette famille d'accueil est devenue comme ta vraie famille.
Oui, ils étaient toujours là pour me supporter, puis m'appuyaient toujours. Puis même encore aujourd'hui, à chaque fois que je ne sais pas quoi faire ou que je me sens mal, je leur parle et ils sont toujours là pour m'écouter.
Parce que parallèlement à ça, toi, tu vas à l'école et tu avais un bon talent. Tu avais un bon talent à l'école. Tu réussissais bien à l'école.
Oui. Par contre, quand j'étais avec mon père, je réussissais bien, mais j'étais en classe d'accueil. Et lui, à chaque fois que j'avais une mention d'honneur parce que j'ai bien réussi en écriture ou en lecture, la seule chose qu'il me disait, comment ça se fait que tu n'es pas encore au régulier?
Comment ça se fait que tu n'es pas encore quoi?
Au régulier.
Ah oui, et donc?
Au régulier, c'est-à-dire en secondaire 1 ou 2.
Et tu as fini par quitter les classes d'accueil et arriver au régulier où tu avais des bons résultats.
Oui, ça, c'est à ce moment-là, lorsque j'étais avec ma famille d'accueil, parce qu'avec eux, ils me disaient toujours félicitations, puis ils m'appuyaient, alors qu'avec mon père, c'était toujours un pourquoi, où on voyait une sorte de... C'est un peu comme si me chicaner. Ok, t'as eu ça, mais pourquoi t'es pas là?
Et donc, la DPJ, elle a été bonne pour toi, dans le fond. C'est ça, le message. Oui. Elle t'a trouvé une bonne famille. Et la DPJ t'a aidé financièrement aussi. Je pense que c'est important de dire la fondation de la DPJ a joué un rôle dans ta réussite.
Oui, parce que grâce à eux, j'ai connu aussi mes meilleurs amis. Ils m'ont poussé à socialiser plus. Donc, j'ai fait du bénévolat, j'ai joué au volleyball. Puis encore au cégep, ils payent mes études, ils payent ma carte au plus, ma session, mes livres. Donc, c'est un gros stress en moins.
Parce que tu t'es inscrite, tu dis, j'ai joué au volleyball et tout ça. Tu t'es inscrite en technologie de médecine nucléaire.
Oui.
Et tu travailles dans ce domaine-là maintenant?
Non, je suis encore aux études.
Tu es encore aux études. OK. Donc, tu étudies toujours là-dedans?
Oui.
Et tu veux devenir, c'est quoi, c'est technologiste qu'on dit, c'est ça?
Oui, c'est une technologue.
Technologue, pardon. Voilà, tu vas travailler par exemple dans un... Tu vas travailler dans un hôpital. Dans un hôpital, voilà, c'est ça.
Oui.
Et pourquoi tu as choisi ce métier-là, ce travail-là?
Au début, j'avais commencé en tant qu'infirmier. C'est juste que j'ai senti beaucoup trop de pression de la part des enseignants. Puis aussi, j'étais pas à l'aise avec le fait de devoir donner un bain à quelqu'un ou le toucher constamment. Alors qu'en médecine nucléaire, c'est vraiment que je travaille avec un ordinateur. Puis il y a le côté social aussi qui reste toujours là. C'est-à-dire le côté où tu dois parler avec la personne puis la rassurer.
Alors là, on va ramener dans la discussion Fabienne Audette, qui est la directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Bonjour Fabienne.
Bonjour Monsieur Drainville.
Bon, parce que Christine, elle a bénéficié dans le fond des moyens matériels de la Fondation, de l'argent que vous avez collecté au fil de vos activités et tout ça. Donc, c'est un exemple très concret de l'aide que vous pouvez apporter. Sauf que la fondation de la DPJ, ces temps-ci, c'est difficile. La fondation du Centre jeunesse de Montréal, c'est difficile parce que vous n'avez pas pu tenir des activités de financement.
Oui, entre autres. Mais la première raison, vous savez, M. Drainville, c'est parce que, puis on en entend parler beaucoup dans l'actualité ces jours-ci, c'est difficile pour beaucoup de gens, les personnes vulnérables encore plus, hein, avec la pandémie et toutes les difficultés que la pandémie amène. Mm-hmm. Mais quand on est une personne vulnérable et qui plus est, quand on est un enfant de la DPJ, un jeune qui est passé par le parcours de la DPJ, ben, ça l'est encore plus. Alors, nous, la Fondation, on est là pour les aider. Puis là, en ce moment, les demandes qu'on reçoit depuis un certain nombre de semaines, elles sont plus importantes en quantité, mais aussi en intensité. Les besoins sont vraiment criants.
Ah, oui.
Et ajouté à cela, effectivement, vous avez raison, nous n'avons pas pu tenir nos deux événements bénéfices majeurs. Et ça, ben, c'est certain que ça vient créer là, un manque important à gagner dans nos finances habituelles. On parle là, de plus d'un demi-million là, qui est à rattraper en ce moment-là. Fait que c'est sûr que quand on voit la composante où on a plus de demandes et des demandes qui sont vraiment fortes en intensité, qui ont besoin d'aide tout de suite, immédiatement, pour éviter les séquelles permanentes pour ces jeunes-là, ben nous, c'est sûr qu'on s'est dit, OK, là, il faut aller en campagne d'urgence, là, on ne peut pas attendre. Là.
Et donc, une campagne d'urgence, dans le fond, c'est un appel que vous lancez aux gens qui nous écoutent s'ils ont un petit peu de sous et ils veulent aider les personnes comme Christine, parce que vous avez aidé Christine, vous avez payé une partie de ses études postsecondaires, une partie de son volleyball et tout ça. Enfin, ce que ses parents auraient dû payer, puis il était plus là pour le faire. Vous avez, d'une certaine manière, pris sa place. Alors là, si les gens, mettons, ont un petit peu de sous à vous donner, là, comment ils peuvent s'y prendre pour le faire?
Alors, en effet, vous avez raison, on compte sur la population, on a besoin de leur appui. Alors, on va sur la plateforme web, donc Fondation du Centre Jeunesse de Montréal, qui est fondationcjm.ca. Les gens vont voir la campagne, on clique sur « En savoir plus », faire un don, c'est très facile et très évident. Ou on nous contacte par téléphone, nos coordonnées sont sur le site web. On peut assister les gens aussi pour qu'ils puissent faire leurs dons. Et je tiens vraiment à dire qu'il n'y a pas de petits dons. Tous les montants vont être utilisés de manière de la bonne manière, je vous le dis. Les demandes sont vraiment très importantes en ce moment. On a besoin de l'appui de la population.
Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Donc, Fondation CJM, comme Centre jeunesse Montréal. Merci, bravo pour le travail que vous faites.
Merci de nous avoir reçus en entrevue. On apprécie grandement.
Et Christine, je te souhaite bonne chance. Tu as maintenant 20 ans. Tu termines ton cours. Et honnêtement, j'espère que tu vas donner des conférences parce que c'est vraiment plaisant. C'est vraiment encourageant de t'entendre. Parce que moi, je trouve que trop souvent, on entend des choses négatives autour de la DPJ. Et toi, tu fais un contrepoids avec un témoignage très positif et très inspirant. Alors, bonne chance. On te donne une belle tape dans le dos. Puis, lâche pas.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Salut, à la prochaine. On s'en va à la pause. Marie-Claude Lavallée est là à 15h. Elle va venir nous donner une petite idée de l'émission qu'elle nous prépare.